Pauline Pucciano, Titania 3.0, chapitre 15, chez les écumeurs. Il n'y avait pas de comité d'accueil en bas de l'échelle, mais une sorte de sas. Une inscription numérique défilait sur un petit écran grésillant au-dessus de l'entrée. « Arrête, c'est ici l'empire d'autres dieux ». Jean trouva la référence aux catacombes de Paris un peu théâtrale, mais il n'eut pas le loisir de trop y songer, il leur fallait pénétrer dans une sorte de cage hermétique, un par un. Une mise en garde plus prosaïque y était affichée, désactivation magnétique temporaire de tous les objets connectés, risque majeur d'avarie permanente. Jean regarda Mito pénétrer dans la cage. Titania, très pâle, se retourna vers lui avant de le suivre. « On n'a pas le choix, » murmura-t-il. Elle hocha la tête et s'avança à son tour, et Jean crut l'entendre pousser une sorte de petit cri à l'intérieur. Puis la porte se déverrouilla, et il franchit le pas à son tour. Il ressentit un tremblement de l'air, des picotements sur l'ensemble du visage, et une légère sensation de brûlure. Il se frotta les yeux pour chasser les taches lumineuses qu'il voyait danser devant lui, puis le phénomène s'arrêta, la porte d'en face se déverrouilla, et il se retrouva dans un ancien escalier de métro, totalement vétuste, juste avant l'accès au quai. Il percevait distinctement le bruit mécanique des serveurs, le vrombissement de multiples machines et des voix. Titania l'attendit et lui donna la main, tandis que Mito, qui ne paraissait pas aussi à l'aise ici qu'à la surface du périphérique, descendait très lentement les marches, probablement pour se donner le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire. Il se sentait déconcerté, dans ce milieu où les gros bras étaient remplacés par des machines, face auxquelles son bagout et son art de la négociation ne servaient à rien. Des caméras les suivaient, et l'accès au quai était protégé par une ligne à haute tension totalement infranchissable lorsqu'elle était verrouillée. Lorsqu'ils furent à 2 mètres environ de cette mortelle frontière, ils s'arrêtèrent et attendirent un temps qui leur parut plutôt long. « Ça ne sent pas bon, » grommelait Mito. « Qu'est-ce qu'on est venu faire ici ?»« Laisse-moi parler si tu préfères, » suggéra Jean. « Parler à qui ?» L'angoisse de Mito provenait sans doute en partie du spectacle qui s'était dévoilé à eux au fur et à mesure de leur descente. Au centre de la station, dans une rame de métro du siècle dernier, des serveurs extrêmement puissants tournaient sans relâche, ventilés par des tubes démesurés, connectés à un enfer de câbles qui, tout à la fois, s'enfonçaient dans les profondeurs des tunnels et remontaient, tentaculaires, sur les quais, où des terminaux étranges, certains fixes, d'autres mobiles, étaient alignés le long des parois de porcelaine blanche. On voyait encore, si on prenait la peine de le chercher, le cadre bleu entourant le nom de la station, Porte de la Chapelle. Écrans verticaux, panoramiques, parallèles, claviers débitant des lignes de commande entièrement numériques, mains protégées de mitaines, repliées comme des araignées arthritiques et courant sur les touches avec une virtuosité surhumaine, fils de toutes couleurs et de toutes tailles qui envahissaient l'espace et reliaient tous ces périphériques à un grand corps mécanique protéiforme, tous ces détails les plongeaient dans une atmosphère d'étrangeté totale. « Arrête, c'est ici l'empire d'autres dieux », se souvint Jean, et il trouva soudain la mise en garde un peu plus pertinente. Les écumeurs en eux-mêmes formaient un groupe saisissant. Le terme de « groupe », d'ailleurs, était peut-être excessif, car Jean remarqua que cette poignée d'individus, qui paraissaient fragiles et peu nombreux face à la taille des machines, fonctionnait chacun dans sa propre temporalité. Hommes, femmes, jeunes et vieux, partageaient cependant à cette distance une sorte d'air de famille fascinant. Ce n'était pas seulement leur immobilité et leur façon de se pencher vers leurs écrans. Il y avait aussi leurs modifications corporelles plus ou moins assorties. Beaucoup d'entre eux arboraient des zones de peau métallisées, des plaques boulonnées sur le visage, des implants organiques imitant des fils ou des claviers intégrés. La pilosité était presque absente, ainsi que les couleurs artificielles. Pas de barbe, pas de plumes, pas de cheveux lâchés ou colorés, mais une austère épuration du corps humain, accédant à une forme presque abstraite. Jean en compta une petite quinzaine. Certains étaient occupés à la maintenance de ce que Jean identifia comme un immense serveur dans la rame désaffectée. Les serveurs étaient reliés aux canaux de fibre optique qui couraient dans le métro depuis le XXIe siècle et dont ils avaient réussi à récupérer le réseau. Ils alimentaient ensuite l'installation de la station. Il n'était pas impossible que la rame du métro pût se déplacer et gagner une autre station. D'autres écumeurs étaient figés sur leurs écrans, certains totalement absorbés, d'autres éclatant de rire de temps à autre, jamais en même temps, communiquant probablement avec l'extérieur. Très peu se parlaient, mais une certaine harmonie régnait cependant entre eux. Ils échangeaient des informations techniques, des doses de nutriments, quelques regards. Non loin de Mito, de Jean et de Titania, à quelques mètres seulement de la ligne à haute tension qu'ils ne pouvaient franchir, un homme d'âge moyen, occupé à écrire des lignes de commande à une vitesse prodigieuse, leur lança quelques regards furtifs. « Ohé ! » finit par crier Mito. Il ne reçut pas de réponse immédiate, mais au bout de la troisième tentative, l'homme grommela. « Oui, je vous ai vu. Une minute, je termine. »« Nous sommes tombés dans la nef des fous, » dit-il à mi-voix à ses deux compagnons. « Ils nous font patienter comme à un guichet. » Titania, aux aguets, paraissait fascinée. « Ils sont très hart, » dit-elle. « Regardez cette fille là-bas. » S'exécutant, Jean vit une jeune femme totalement chauve, au crâne parfait et à l'ossature fine et gracieuse. Elle avait les épaules recouvertes de plaques de métal et un tatouage de fils entremêlés reliait ses plaques au dos de ses mains. Soudain, un écumeur arriva dans les escaliers juste derrière eux. Il avait un sac d'où dépassaient manifestement des Hervé en assez grand nombre. « Je suis de retour !» Plusieurs écumeurs arrêtèrent instantanément leur activité, ce que Jean n'eût pas cru possible l'instant d'avant. « Visiblement, certaines personnes sont plus attendues que d'autres, » fit remarquer Mito. « Qu'est-ce que tu crois ?» demanda Titania. « Nous sommes là pour mendier, on ne va pas nous accueillir avec des petits fours. » « J'attendais plutôt des menaces et des questions, comme en haut. »« Tu es déçu ?» demanda Titania. « Moi, je trouve ça plutôt reposant. » Mito lui lança un regard agacé. « Ravi que ça te plaise, parce que c'est pour toi qu'on est là. » Jean pressa la main de Titania pour qu'elle se taise. De toute façon, l'agitation qui les entourait commençait à se faire pressante. Quatre ou cinq écumeurs approchèrent de la ligne à haute tension et actionnèrent un interrupteur manuel. L'écumeur chargé des Hervé passa, bousculant Jean au passage. « C'est qui cela ? » demanda-t-il à ses compagnons, en franchissant la ligne. Cette question cependant ne paraissait pas prioritaire et demeura sans réponse plusieurs minutes. « Tu en as récupéré combien ? 8 !»« Georges, 8 Hervé pour les II temporaires, grouille-toi ! Les décès remontent à quand ? Entre 3 et 12 heures. Les Hervé seront fonctionnels 24 ou 48 heures, pas plus. Je répète ma question, c'est qui cela ? » Les écumeurs se tournèrent en même temps vers Jean, Titania et Mito et semblèrent leur accorder un semblant d'attention pour la première fois. « Aucune idée, » dit l'homme aux lignes de commande. « Qu'est-ce que vous voulez ?» Mito prit une profonde inspiration, mais ce fut Jean qui le devança pour prendre la parole. « On est en cavale et on a besoin de la déconnecter, » dit-il en désignant Titania. « Up crânien, un plan connecté. Elle doit devenir une invisible. »« Recherchée ?» Jean regarda Mito avant de répondre. « Oui, et sans doute activement. » Il y eut une onde d'inquiétude dans le groupe des écumeurs qui les écoutaient. « Dis-leur de se tirer, 27 !» L'homme, qui répondait au nom de 27, un peu plus âgé que les autres, de stature assez frêle, hochait la tête pour réfléchir. Les écumeurs prenaient leur temps. La jeune femme chauve s'était approchée aussi, et elle eut une exclamation en voyant Titania. Elle glissa quelques mots à l'oreille de 27, qui ne répondit pas, mais enregistra l'information. « Évacuation probable, niveau d'alerte 3 !» commença par dire 27, d'une voix ferme et résolue. À ces mots, les autres écumeurs se dirigèrent prestement vers les terminaux, les serveurs, les câbles, pour effectuer tout un manège de gestes techniques. Comme Jean le pensait, la rame de métro était encore mobile et devait pouvoir utiliser les tunnels pour changer de position. Qui savait exactement la géographie des stations désaffectées depuis un siècle ? « Vous allez rester de ce côté-ci de la ligne haute tension, ou bien griller sur elle. »« Nous pouvons vous payer, » insista Jean. « Comment ? On se moque des crédits, des bijoux et de toutes ces conneries. Vous avez du matériel ?»« On a ça, » dit Mito, en sortant le Hervé nacré de Titania. Titania ouvrit la bouche pour protester, mais se ravisa. « Le Hervé de mademoiselle, » demanda 27. « Belle bécane !» L'homme, qui ne paraissait ni paniqué ni anxieux, traitait les données le plus rationnellement possible. Il s'éloigna un moment sans crier gare et se rapprocha des autres écumeurs pour leur poser des questions. Ginger, l'entendirent-ils prononcer à l'attention de la jeune fille. Tu as besoin de combien de temps pour un bilan des connexions ? La jeune fille parut réfléchir tout en observant Titania de loin et répondit quelque chose à mi-voix. Dans l'agitation mesurée qui régnait dans la station, 27 paraissait toujours aussi calme et se dirigea vers l'interrupteur de la ligne à haute tension. Primo, si on a besoin d'évacuer, vous vous débrouillez, on ne vous prend pas en charge. Deuxio, seule la fille pénètre dans la station, et c'est elle qui fait passer le RV. Tertio, Ginger a estimé l'opération à environ 1 heure, mais ce sera un peu douloureux. Avez-vous quelque chose à dire ? Mito, avec un air presque scandalisé, semblait avoir beaucoup de choses à dire, mais Jean lui lança un regard de reproche. « J'ai besoin de quelque chose pour lire une rémanence, dit-il. J'ai enregistré celle de ma mère sur de la mémoire morte et j'aurais besoin d'un lecteur. » 27 se tourna vers l'homme qui avait apporté des RV plus tôt et qui était en train de les manipuler et de les classer. « Tu aurais un RV enfin dit I ?»« Oui, il y en a 2, là, qui expirent dans 1 heure. » 27 les prit tous les deux dans ses mains et se rapprocha de la frontière électrique. « 1 heure environ pour lire la puce, sans supplément. Je n'aime pas gâcher du matériel qui peut encore servir. » Mito avait entendu parler de ce trafic de RV de personnes récemment décédées. Dès qu'il y avait un accident ou une mort brutale, parfois même dans les hôpitaux, les RV des victimes disparaissaient. Sortir du réseau était rapide, mais pas immédiat. Il fallait que la famille fasse des démarches, que l'information soit traitée. Même si les autorités avaient réussi à raccourcir ce temps de latence, il restait souvent 1 jour ou 2 de battement avant que l'identité informatique du mort soit totalement désactivée. N'importe qui pouvait alors utiliser le RV en toute tranquillité. HR, écumeurs, pillards de toutes sortes. Mito connaissait certains HR qui n'hésitaient pas à tuer pour une identité informatique de quelques heures. Et il n'avait pas envie de négocier avec ces gens-là. « Où avez-vous trouvé ces RV ?» demanda Mito, n'y tenant plus. « Pas ton problème, le HR, » répondit 27 avec mépris. « Les écumeurs écument, et toi, tu restes en dehors. » Jean reprit la parole, après avoir consulté Titania du regard. Mito lui confia le RV, avec un certain soulagement car l'objet lui faisait horreur depuis qu'il l'avait vu connecté dans le camion. Elle eut une dernière hésitation avant de s'avancer jusqu'à la ligne à haute tension. Tandis que 27 actionnait manuellement le lourd interrupteur, Jean eut peur, un infime instant, qu'elle ne se jette dans le courant mortel. Mais elle n'en fit rien, et elle rejoignit Ginger, qui la considérait avec beaucoup d'intérêt, quelques mètres plus loin. Elles s'engouffrèrent dans la rame du métro où bourdonnaient les serveurs, et Jean et Mito ne purent plus la voir. 27 déposa les 2 RV derrière la ligne et actionna à nouveau l'interrupteur. « Vous savez comment on fait ?» Jean haussa les épaules, incertain. 27, de toute façon, ne semblait guère avoir envie d'attendre la réponse, et il était reparti vers d'autres occupations. Mito essaya de le rappeler, mais personne ne répondit plus à ses cris. Titania semblait avoir été avalée par cette station désaffectée, avoir disparu dans sa faune étrange, sans laisser de traces. « Je te connais, » dit Ginger aimablement, en précédant Titania dans un espace vaguement médicalisé, aménagé dans la rame. « C'est vrai ?» demanda Titania. « Oui, j'ai suivi ton émission avec Locard. Très spectaculaire. Comment t'en es-tu sorti ?»« Ce sont eux, » dit Titania, en désignant Jean et Mito. « Nous avons au moins 2 points communs, » dit Ginger avec un sourire appuyé. « Nous sommes Art et nous avons des mères terrifiantes. » Titania, un peu embarrassée, lui rendit son sourire. « Ton style est saisissant, » déclara-t-elle. Ginger était en train de désinfecter quelques instruments, et Titania, au moment de s'asseoir sur la table, qui ressemblait aux tables de tatouage traditionnelles, ne put s'empêcher de songer au moment si proche où l'infirmière de Morgan Corp lui avait administré le sédatif qui aurait dû s'achever par sa cérébroctomie. Elle eut un mouvement de recul, un regard effrayé. Ginger remarqua qu'elle touchait machinalement la zone rasée de ses cheveux et prit son temps. Une image radiographique de Titania apparaissait sur un écran. Le hub ressortait comme une sorte de cancer dans son crâne, mais on voyait également les griffes implantées au bout des doigts. « Je vais commencer par le plus important parce que nous allons peut-être manquer de temps, le hub crânien. Tu vas ressentir une intense douleur à l'arrière du crâne qui va durer plusieurs heures. Je te conseille d'avaler ça. » Titania prit le cachet que Ginger lui tendait, mais ne l'avala pas immédiatement. « Il faut que je reste lucide, je ne dois pas les mettre en danger. » « Tu ne pourras pas supporter la douleur si tu ne le prends pas. Cela pourrait être encore plus handicapant. » Titania prit une profonde inspiration, puis avala le cachet, dont l'action, comparée aux drogues neurales, lui parut extrêmement lente. Cependant, elle se détendit et se mit à observer Ginger avec une sorte de distance ouatée. La jeune fille aux lignes parfaites d'androïde lui paraissait très sûre d'elle et lui inspirait naturellement confiance. La taille de la pince dont elle se saisit la surprit, mais elle ne réalisa pas pleinement que l'outil allait pénétrer dans son hub et le lui arracher, lésant par là les terminaisons nerveuses innombrables qui s'étaient créées sur le greffon. « Je risque des séquelles nerveuses ?»« Céphalée, torticolis, douleur de l'épaule. »« Et après le hub, les griffes, cela ne prendra pas beaucoup de temps. » »« Tout est connecté au réseau ?»« Oui, tout, sauf quand tu viens te faire opérer chez les écumeurs. »« Est-ce que tu es prête ?» Titania plongea dans les yeux gris de Ginger, son regard noyé par le médicament et terriblement angoissé. « Non, » dit-elle en souriant. Ginger lui rendit son sourire et introduisit le plus doucement qu'elle put la grande pince à l'intérieur du hub. Elle la tourna, jusqu'à entendre un clic qui résonna dans la boîte crânienne de Titania de manière funèbre. « Alors allons-y, je compte jusqu'à 3. » Titania ferma les yeux et compta pour elle-même, puis elle fut emportée dans une vague de douleur si intense qu'elle n'eut pu retenir un hurlement strident. À travers le bourdonnement des machines et les échanges feutrés des écumeurs, Jean et Mito entendirent très distinctement le cri humain de Titania. « Un peu mal qu'il disait, » commenta Mito avec humeur. « J'espère qu'elle va supporter le choc. » Jean luttait contre l'envie de se précipiter à sa rescousse. Il l'imaginait ensanglanté, désarticulé, et ses images morbides lui faisaient mal. Mais il lui fallait mettre ses sentiments de côté un bref instant, le temps de faire ce qu'il fallait pour la sauver et leur permettre de se retrouver plus tard. Il venait tant bien que mal de réussir à charger la rémanence dans le RV que 27 lui avait donné, et l'image de sa mère, lointaine et familière, identique par-delà tous les changements possibles, lui apparut. « Bonjour, Jean. » Comme à chaque fois, Jean se sentit troublé. Cette présence sensible et intelligente qui avait été la sienne, ce regard original sur le monde, lui manquait et lui revenait tout à la fois dans un souffle. « Maman, j'ai besoin de savoir pourquoi tu as fait cette rémanence de toi-même. »« Je l'ai créée pour te laisser quelque chose de moi, quelque chose de nos conversations, de mes idées, pour te guider peut-être lorsque je ne serai plus. »« Tu as toujours été contre cette technologie. »« Mais j'ai toujours été contre ma mort également. » La rémanence avait un sourire léger, et cet humour était tellement imprégné d'elle que l'illusion fut soudain parfaite. « Il est possible que je n'ai plus jamais accès à ce programme, maman, parce que je suis en difficulté. »« Quelles sont tes difficultés ?»« Je suis poursuivie, recherchée, je dois quitter le réseau. » Le visage serein de sa mère devint grave. « J'ai toujours su qu'un jour tu me rejoindrais, Jean. J'ai toujours su que tu n'étais pas fait pour vivre comme tous ces moutons électriques. »« Te rejoindre ? Mais de quoi parles-tu ? » ?»« Je ne suis pas tout à fait la femme que tu connais. » « Parles-tu de ta rémanence ?»« Non, je parle de moi. Tu ne me connais pas entièrement. Il y a tout un pan de ma vie dont je t'ai protégée et que j'aurais voulu te léguer malgré tout, lorsque tu serais en âge de le comprendre. »« C'est pour ça que tu as fait cette rémanence ?»« Oui. » »« Quel est ce pan de ta vie ?» La rémanence eut une étrange hésitation, comme si son programme intérieur hésitait entre plusieurs chemins équivalents, entre plusieurs organisations de conversation concurrentes. « Que veux-tu me léguer ?» demanda Jean, en transformant sa question. « Il y a un lieu que tu devrais visiter, Jean, un souvenir de ton enfance que je t'ai fait conserver précieusement. Tu sais, cet instant parfait que nous avons enregistré lorsque tu avais une douzaine d'années. » « Oui, je m'en souviens très bien. » « Il te faut retourner à ce lieu, Jean. Tu y découvriras des réponses. » « Où se trouve-t-il ? » « Es-tu seul, Jean ?» Il était extrêmement rare que les rémanences répondent à des questions par d'autres questions. Jean le remarqua, mais supposa que cela avait été fait exprès. « Non, mais je suis en confiance. Tu as dit que tu étais poursuivi. Es-tu recherché par la police ?»« Oui. Ce lieu est un refuge. Où se trouve-t-il »« Es-tu seul, Jean ?» Le malaise du jeune homme s'accentuait, avec un sentiment d'urgence qui montait dans sa poitrine. « Oui, je suis seule. Latitude 49.1949773, longitude 1.2373781. « Peux-tu répéter ?» demanda Jean en panique, qui appela Mito à la rescousse. « Latitude 49.1949773, longitude 1.2373781. » Mito s'était approché. « Je ne m'en souviendrai jamais, » murmura-t-il. Jean et Mito échangèrent un regard. « Es-tu seul, Jean ?» répéta la rémanence. Soudain, il y eut des exclamations de l'autre côté de la ligne. Mito crut d'abord qu'il s'agissait de l'alerte d'évacuation, mais il se rendit compte assez vite que les écumeurs s'étaient rassemblés autour d'un écran sur lequel il crut reconnaître la copie de la rémanence de la mère de Jean. « Jean, vise un peu par là !» Jean réintégra l'espace complexe dans lequel il se trouvait. Titania torturée derrière la cloison de la rame, les écumeurs au-delà de la ligne à haute tension, puis ses yeux furent attirés par l'écran qui répliquait le sien. 27 était en train de s'exclamer devant le visage de sa mère, et cela lui apparaissait totalement incompréhensible. « Il ne nous avait pas dit que c'était une rémanence d'Olympe, » entendirent-ils. « Des coordonnées !» s'exclamait un autre avec admiration. Jean mit plusieurs secondes à comprendre que toute sa conversation avec la rémanence avait été suivie en direct et que l'identité de sa mère stupéfiait les écumeurs. 27 ne tarda pas à se rapprocher de la ligne à haute tension. « Toi, tu es le fils d'Olympe ?»« Je ne sais pas de quoi vous parlez, » dit Jean, avec humeur, exaspéré par toute cette publicité. « Ma mère est morte il y a 2 mois et... »« Oui, on sait !» Il se murmurait qu'elle avait laissé une rémanence. « Il se murmurait, » répéta Mito. « Olympe est une pointure de la dissidence, mon gars. Sa vie et sa mort font partie de l'espace public. » Jean avait le tournis, et ses gens commençaient à le fatiguer avec leur air perpétuellement occupé ailleurs et toujours informé. « Ne me dis pas que tu l'ignorais, c'est incroyable !» Ils semblaient tous ravis, comme des orpailleurs devant un filon inattendu. L'un d'entre eux venait de lancer une recherche et, très échauffé, criait le résultat. « Les coordonnées, c'est une île sur la Seine, l'île de Lormet !»« Une île, c'est délirant !» criait un autre. Jean commençait à voir rouge. Les écumeurs surveillaient le réseau sans cesse, à la recherche d'une bonne fortune, et ne s'étaient jamais départis d'un sens aigu et enfantin de l'aventure. Tous les miracles, toutes les étrangetés qui pouvaient survenir de leurs arides lignes de commande les comblaient de joie. Sa mère morte était comme une noyée pêchée par accident dans les filets de ces pirates, et, tandis qu'il s'amusait de ce qu'il découvrait sur elle, Jean ressentait une impression de sacrilège presque insupportable. Il avait envie de leur hurler de se taire, et ne trouva rien d'autre à faire pour couper court à cet instant que d'éjecter la rémanence du lecteur. Les écumeurs dépités se tournèrent vers lui d'un air bougon. « Où puis-je trouver ces dissidents ?» demanda Jean, en essayant de maîtriser sa colère. « À la péniche, quai de Bercy, » répondit 27. « Ben voyons, maugréa Mito, c'est à l'autre bout de Paris. »« Quelle péniche ?» insista Jean. « Je ne sais plus son nom, la flamme ou quelque chose comme ça. » Titania était en train de sortir de la rame, soutenue par Ginger, la tête bizarrement inclinée vers la gauche. Elle adressa à Jean un signe de la main, et Ginger la dirigea vers la ligne à haute tension que 27 désactiva. Titania traversa, d'un pas mal assuré, et Jean lui prit le bras. « Merci, » dit-il. Ginger s'apprêtait à réactiver la ligne à haute tension lorsque l'alarme se déclencha. Son geste ne fut jamais achevé. Cette fois, il ne s'agissait pas d'une fausse alerte, et Jean, Titania et Mito, immobiles et confus, furent abasourdis par la rapidité avec laquelle tout ce qui se trouvait dans la station, hommes, femmes, terminaux, se volatilisa. La rame se mit à frémir dans un fracas métallique archaïque et s'engouffra dans un tunnel. Tout fut bientôt vide et silencieux, comme si le lieu qui avait existé quelques minutes auparavant n'avait été qu'un rêve. « Il faudrait peut-être se tirer d'ici, » fit remarquer Mito très calmement. « Commençons par aller de l'autre côté de la ligne, » dit doucement Titania. Jean tendit l'oreille et entendit distinctement des bruits de bottes dans les couloirs au-dessus d'eux. Les policiers, si c'était bien eux, étaient sur le point d'atteindre les escaliers, d'une manière ou d'une autre, et il fallait faire vite. Ils traversèrent la ligne que Ginger n'avait pas eu le temps de réactiver et actionnèrent l'interrupteur juste à temps pour apercevoir les premiers policiers dévaler l'escalier. Sans réfléchir, ils s'élancèrent dans le tunnel du métro que bouchait l'instant d'avant la rame immobilisée. Des LED blafardes éclairaient de loin en loin les rails et les murailles d'un noir de suie. Jean remarqua dans leur course que Mito traînait la jambe. Il s'arrêta au bout d'une centaine de mètres pour reprendre haleine, au niveau d'une sorte d'échelle de secours, leur poursuivant semblant toujours bloqué par la ligne à haute tension. « Tu ne peux pas courir ?» demanda Jean. « Non, ma jambe me fait trop mal. Le mieux, c'est que je remonte à la surface. Où est-ce qu'on se retrouve ?»« À la péniche, avant le soir. » « Tu trouveras un bon samaritain pour te soigner ?»« Ça m'étonnerait, Jean, mais je vais me débrouiller. Bonne chance. » Jean leva la tête et regarda le HR disparaître dans le noir, puis il saisit la main de Titania. « Tu as un bon sens de l'orientation ?»«
Pas du tout, » dit-elle en souriant.
« Alors j'espère que tu as une bonne étoile. » Et tous deux, agrippés l'un à l'autre par leurs mains crispées, entamèrent leur longue marche dans l'obscurité. Dans le dédale de tunnels, où des bruits immenses et inconnus les inquiétaient sans cesse, où de petits piétinements invisibles leur faisaient pousser des cris involontaires, où il fallait traverser de sinistres stations désaffectées, la peau lunaire de Titania réfléchissait la lumière avare. Jean, qui marchait juste devant elle, sans la lâcher, se retournait parfois pour vérifier qu'elle était toujours là et que sa silhouette opaline ne s'était pas évaporée ou transformée à son tour en un fantôme sans consistance. Tout ce qu'il aimait n'avait-il pas tendance à disparaître ?